Merci Tiffaine, bon week-end. Deux invités et de la chanson française, paroles et musique avec Philippe Forest et Pierre Lemarchand, c'est-à-dire Alain Bachung et Jean Fauque, mais aussi Léo Ferré, Dave, Jacqueline Boyer, l'impossible face B et peut-être même une valise de vacances, tout azimut et dans le désordre, parce que c'est la dernière de la saison et parce que, comme dit la chanson, délaissant les grands axes, nous prenons la contre-allée. Et c'est jusqu'à 16h.
Personnellement, je n'ai pas ce mépris qui s'exprime ici ou là pour les formes les plus récentes de la chanson. Et j'ai, par exemple, parmi les chansons que j'ai entendues chanter à Johnny Hallyday, pour en rester simplement là, il y en a que je considère comme de très belles chansons. Ce n'est pas parce que l'expression du sentiment est faite avec quelques mots, par des moyens autres, qu'elle perd de l'intensité. Au contraire, vouloir opposer une forme de chanson à l'autre, tuer une chanson par l'autre, voilà le mauvais coup qu'on nous fait. Et je ne m'associerai certainement pas à ce dénigrement d'une forme de la chanson qui plaît à la jeunesse, ce qui ne me paraît pas mauvais, et qui plaît aussi, comme vous voyez, à de vieux bons hommes comme moi.
Pierre Lemarchand, Philippe Forest, bonjour, bienvenue à tous les deux. Une chanson donc ne devrait pas en tuer une autre, hein, c'est ce que nous dit Aragon au micro de Francis Crémieux. Est-ce qu'il faut vraiment le croire, Philippe Forest? Et je m'adresse au biographe d'Aragon.
Je crois qu'il faut faire confiance à Aragon lorsqu'il nous parle de la chanson et du goût qu'il a pour elle. Je connaissais ce texte puisque on l'a publié dans la NRF il y a quelques années. En revanche, je n'avais jamais entendu l'entretien lui-même. Et je remarque que Aragon est le seul, à ma connaissance, qui aspire le H quand il prononce le nom de Johnny Hallyday. Non, moi, dans ma biographie, j'ai consacré tout un chapitre aux relations d'Aragon avec la chanson. C'est quelque chose qui était parfois négligé par les essayistes, par les biographes, pas par tous, mais Aragon a beaucoup compté, je crois, dans l'histoire de la chanson française, bon, essentiellement à travers Ferré et à travers Ferrat, et il montre bien quel type de circulation il peut exister entre poésie et chanson, précisément. En ce qui concerne le rapport d'Aragon à la chanson, il faut pas oublier que Aragon est celui qui réintroduit la rime, qui réintroduit le vers dans la chanson française, dans la poésie française, pardon, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale, et qui pense que la poésie doit réapprendre à chanter après la période expérimentale, disons, de la première moitié du XXe siècle, à laquelle il a été lui-même lié à l'époque du surréalisme, de l'écriture automatique. Donc ce désir de redonner à la poésie française la faculté de chanter et de faire sens, c'est quelque chose qui concerne bien sûr Aragon en tant que poète, le poète du Crève-Cœur, le poète du roman inachevé, mais qui concerne aussi ce rapport qui était le sien à la chanson.
En tout cas, il pense à comment chante son poème.
Oui, absolument. Oui. Il y a cette volonté de faire chanter la poésie. Et le chant, pour lui, est indissociable du sens. Donc c'est le même combat qui se livre sur ces deux fronts. Le front de la musicalité et le front de la signification. Il faut refaire chanter la poésie, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, pour lui redonner la faculté qu'elle a perdue à son sens de signifier, et de signifier en direction du plus grand nombre.
Alors on va évidemment y revenir, Philippe Forest, écrivain, qui dirigeait un copieux hors-série Art Press 2, comme on dit, consacré à la chanson française, avec les plumes notamment de Thomas Clair, de Didier Arnaudet, de Laurent Goumard, de Véronique Bergen ou de Jean-Yves Jouannet, après avoir par ailleurs d'ailleurs initié un numéro 1 de la Nouvelle Revue Française il y a quelque temps, qui tournait lui autour de la variété et de la littérature, ou des littératures. En quoi est-ce que la chanson vous concerne, Philippe Forest?
Oh, ni plus ni moins qu'un autre. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la chanson, mais comme presque tout le monde, je crois, j'ai le goût de la chanson. Enfin, j'ai le goût d'une certaine chanson, française, mais pas seulement. Et je remarque que ce goût est particulièrement partagé, parce que aussi bien pour le numéro de la NRF dont vous parliez, qui date d'il y a 3 ou 4 ans maintenant, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus.
2012. Hein.
2012, ouais, le temps passe. Que pour ce numéro d'Art Presse, il suffit de solliciter les personnes les plus variées et les plus inattendues pour s'apercevoir que ces gens ont envie d'écrire sur la chanson. Par exemple, on avait Annie Ernaux qui avait écrit un très beau texte sur Léo Ferré, sur cet extra dans la NRF, et là, tout le monde, je crois, a le goût de la chanson. Alors, pour des raisons qui peuvent être variables, il peut y avoir une sorte de snobisme aussi à s'intéresser à quelque chose qui paraît très éloigné de vous lorsque vous êtes écrivain, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de très sincère, de très authentique, en tout cas moi que je revendique comme tel, et que j'ai exprimé donc dans ces deux numéros de la NRF puis d'Art Presse, au même titre que tous les autres collaborateurs.
Le numéro de la NRF se penchait sur le terme de variété, celui d'Art Presse sur celui de chanson française même, presque en un seul mot. Oui. Je ne sais pas s'il faut considérer ça par ailleurs comme un genre ou comme une catégorie. Un mot peut-être sur cette notion de variété qui pourrait en être peut-être un sous-genre. Je ne sais pas si vous avez une petite théorie de la variété ou des variétés, ou s'il s'agit même d'une terminologie française ou d'une idée française.
Ben, je me rappelle une chanson de Léo Ferré qui d'ailleurs avait été reprise par Godard dans un de ses films où il se revendique comme un chanteur de variété, ce qu'il n'était pas forcément, ça dépend du sens qu'on donne au mot variété. Bon, dans le cas de la NRF, c'était un peu différent, c'était un clin d'œil à Paul Valéry, et ça nous a semblé, avec Stéphane Audguy, puisqu'on co-dirigeait la NRF à l'époque, ça nous a semblé amusant de détourner comme ça ce titre valérien et très NRF pour baptiser un numéro de la revue, où de manière assez inattendue intervenaient des gens comme Bernard Lavillier ou Serge Lama, que j'avais eu grand plaisir à interviewer à l'époque.
Aragon, tout à l'heure dans l'extrait qu'on entendait, hein, se désolait qu'on puisse utiliser une chanson pour en tuer une autre. Et je me disais peut-être effectivement que cette question de la variété pourrait tout à fait faire écho à ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce que vous y trouvez, vous, dans ce terme-là, Pierre Lemarchand, celui de la variété? Parce que ce qui frappe par ailleurs, l'un et l'autre ne venaient pas du même terrain de jeu. Hein. Vous, plutôt côté musique, Pierre Lemarchand et Philippe Forest, évidemment, côté littérature, côté écrivain, vous parlez plus volontiers de musique française, on va en parler, hein, à propos de Bachung, et Philippe Forest parlait de chanson française. Qu'est-ce que ce serait que la variété pour vous ?
En fait, Alain Bachung est un cas assez particulier, parce que je pense que c'est l'un des musiciens français, l'un des artistes français qui a su concilier la variété et le rock. En fait, si je dois venir de quelque part, si j'ai un terrain de jeu, ce serait plutôt celui du rock. Et c'est celui-ci qui m'a amené à me pencher sur Alain Bachung. À mon avis, c'est ça qui le singularise, c'est que lui, il a une culture très américaine. Ses premiers émois, c'est pas la chanson française. Les premiers émois dans la Bachung, c'est le rock and roll. Il grandit en Alsace et ce sont les radios américaines qui sont de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, qui diffusent les pionniers du rock and roll. Et c'est comme ça que le déclic de la musique se fait. Il grandit chez son grand-père et sa grand-mère qui parlent alsacien et allemand. La langue française n'est pas sa langue natale. En tout cas, c'est la langue de sa mère, mais il n'est pas avec sa mère. Donc, il ne la parle pas. Le français arrivera plus tard. Donc, la chanson française pour Bachung, c'est pas ça qui va fabriquer, en fait, sa culture musicale. Et la chanson française arrivera bien plus tard. C'est pour ça aussi, je pense, qu'il a un rapport à la langue extrêmement étrange, Alain Bachung, qui peut se permettre. Et en fait, sa grande découverte de la chanson française arrive bien plus tard. Et notamment dans les années 90, lors d'un l'enregistrement d'un disque qui s'appelle Chatterton, qui précède Fantaisie militaire. Il est à Bruxelles, dans les studios ICP. Et Barclay vient de rééditer l'intégrale de Léo Ferré. Et avec Jean Fauque, voilà, dans les studios d'enregistrement, il y a toujours de longs moments d'attente, comme ça. Et il se plonge dans cette intégrale de Léo Ferré, et c'est une claque incroyable et une découverte fondamentale pour Bachung, qui va influencer la suite de son parcours, d'abord avec Fantaisie militaire, un petit peu, et avec L'imprudence, de manière magistrale ensuite.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. t'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, geyser. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes.
Alors, Pierre Lemarchand, vous signez donc Alain Bachung, Fantaisie militaire aux éditions Densité, hein, entre exercice d'admiration et puis récit extrêmement détaillé d'une genèse, hein, celle de l'album Fantaisie militaire, paru en 98. Après Novice, Osée Joséphine, Chatterton, coécrit avec Jean Faux, que c'est la quatrième collaboration, je crois, avec Alain Bachung. Ouais. Choisir cet album-là, Pierre Lemarchand, alors même si c'était une commande, même s'il y a des contraintes, mais choisir celui-là, c'était choisir quoi? C'était choisir un album? C'était choisir un souvenir?
Ouais.
Un moment?
Oui, bien sûr. C'était c'est accepter d'écrire sur Fantaisie militaire, parce que c'est comme ça que ça s'est passé avec l'éditeur. Hein. C'est une proposition de l'éditeur. Moi, je n'aurais jamais osé. C'est un grand. Mais non, je n'aurais jamais osé me pencher sur un disque comme celui-ci, parce que il résonne énormément avec. Oui, comme vous le dites, justement, plein de souvenirs. Mais c'est, je pense, la force des chansons. La force des chansons, c'est qu'elles parviennent parfois à cristalliser des moments de nos vies. Et à chaque fois qu'on les réécoute, même si c'est 10 ans, 15 ans après, il y a des choses. Même si on les visualise, on les ressent pas de manière extrêmement nette. Il y a des choses qui se trimballent, qui nous visitent, quoi. Et ouais, Fantaisie militaire, c'était quand même un gros morceau pour moi.
Vous vous souvenez de ce qui vous a fait, cet album-là, en 98?
C'est le premier album que j'achète avec ma compagne, qui est aujourd'hui toujours ma compagne, la maman de mon enfant, etc. C'est, ça signe un moment dans ma vie où je prends un virage. Voilà, où je précise aussi mon orientation professionnelle. Je précise mes amours, du coup. Je précise le chemin de ma vie et la bande-son de cette précision-là s'appelle Fantaisie militaire.
Est-ce que ça veut dire que 20 ans après, vous l'écoutez de la même manière?
Ouais, bien sûr, je l'écoute de la même manière. Et même si je m'y suis plongé de manière incroyablement profonde, je l'ai disséqué comme jamais je n'aurais pensé pouvoir disséquer des chansons qui sont cet art populaire qui est a priori léger. Et en fait, qui est vertigineusement profond. Et l'art d'Alain Bachung et de Jean Fauque, hein, parce que c'est quand même la porte d'entrée sur Fantaisie militaire, est réellement, à mon avis, à mon humble avis, les paroles. Pour la première fois pour ce disque, Alain Bachung souhaite que les paroles soient terminées avant de commencer à réfléchir à quelques pistes musicales. C'est la première fois, hein, dans la trajectoire de Bachung. Et c'est la première fois dans la collaboration qui unit Fauque et Bachung. Quand quelqu'un de Barclay lui dit alors, Alain, ça avance ce disque, parce que Alain Bachung était un petit peu long, hein, et laissait filtrer peu d'informations, ça avance ce disque, et Bachung dit oui, il est terminé. En fait, il avait juste écrit les textes. Mais ça veut dire beaucoup de choses.
Alors, justement, à propos de ces textes, hein, forcément, vous vous y attardez longuement. Mmh. C'est sur La nuit, je mens que le titre, que votre livre s'ouvre sur un moment d'écoute par le producteur dans un taxi, hein, de La nuit, je mens, par ses premiers vers, hein, on m'a vu dans le Vercors. Un texte donc qui dit l'écriture à quatre mains Fauque-Bachung, alors très particulière, en tout cas pour cet album-là, alors je ne sais pas si c'est venu fixer quelque chose, pour ce titre-là en particulier, hein, La nuit, je mens, il aura fallu 8 textes, triturés, malaxés pour produire ce texte-là, plus d'une quinzaine de versions avant de trouver la bonne. En quoi est-ce que ce titre-là dirait le mieux, ou dirait justement, la méthode de travail Fauque-Bachung?
Ça mène à son extrême une méthode qui est, Fauque arrive avec des pages noircies, et c'est très ritualisé, c'est-à-dire qu'il se voit 2 fois par semaine, le mardi, le jeudi, de 15 à 19. C'est quelque chose qui est étonnant, hein. Fauque arrive avec des textes qu'il a noircis en général la veille au soir parce qu'il dit mince, je suis à la bourre. Et Bachung, lui, a son petit carnet où il note aussi comme ça des idées, des phrases, des fulgurances. Et puis, Bachung va puiser dans les textes de Jean Fauque et créer comme ça des cadavres exquis, un peu à la manière du cut-up aussi des poètes beat américains. Et ça va donner comme sa naissance à ces chansons qui zigzaguent, à ces paroles qui nous perdent, à ces liens logiques qui existent dans la tête de Bachung et qui finalement finiront par exister dans les nôtres de tête. Et La Nuit Je Mens est impressionnante pour cela, parce qu'elle est la compilation de plusieurs textes de Jean, et puis après de nombreuses versions, comme vous le disiez, 15, et au départ c'est 5 textes différents. Et par exemple, le fameux On m'a vu dans le Vercors est extrait d'un texte qui fait 3 pages et dont n'a survécu qu'une phrase, On m'a vu dans le Vercors, l'incipit, mais dont la force était telle que Bachung l'a extraite et ensuite ils ont déroulé le reste. Et le texte premier, ces fameuses 3 pages qu'avait écrit Jean Fauque pour son ami Alain Bachung, ont corps et bien disparu.
Est-ce qu'on peut voir, par exemple, le tout premier titre de cet album, qui s'appelle Malaxe, est-ce qu'on peut le voir, au fond, comme un écho à ce que vous dites? Alors, c'est un titre qu'ils ont écrit ensemble, évidemment, qui tourne autour de la figure du golem, mais qu'on peut voir, au fond, comme cette sorte de patte qu'ils fabriquent tous les deux.
Ouais, c'est ma pensée, en tout cas, aussi. On met jamais un titre comme ça par hasard en début d'album. Malaxe est mis en début d'album, peut-être que c'est aussi une déclaration de l'art poétique qui va nous être donné à entendre. Les textes sont malaxés ainsi, c'est-à-dire qu'on les coupe, on les colle, on les pétrit, on les malaxe, et la musique est ainsi faite également. C'est possible parce que la technologie musicale a avancé à ce moment-là. On entre dans l'ère du numérique tout doucement. Et c'est possible aussi d'aller puiser un arrangement ici, de le coller avec un autre arrangement. Et finalement, la méthode que Jean Fauque et Alain Bachung ont initiée au début des années 90 ensemble est traduite en musique également, avec les différents collaborateurs musicaux dont s'entoure Bachung pour Fantaisie Militaire. Donc oui, je pense qu'en effet, Malaxe nous raconte ça. Comment est fait ce disque?
Alors avant d'en venir à la musique, à proprement parler, on en reste au texte. Et le texte, ça peut donner ça aussi.
Il m'aura fallu faucher les blés, apprendre à manier la fourche pour retrouver le vrai, faire table rase du passé. La discorde qu'on a semée à la surface des regrets n'a pas pris, n'a pas pris. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi, sois encore à moi. Les pluies acides décharnent les sapins, et j'y peux rien. J'y peux rien. Coule la résine, s'agglutine le venin. Je crains plus la mandragore, je crains plus mon destin. Je crains plus rien, je crains plus rien. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher, sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi. Angora, sois la soie, sois encore à moi. Angora, Angora.
Alors c'est la voix de Jean Fauque qu'on vient d'entendre, 10 ans. Angora, c'est un enregistrement qui avait été fait pour une soirée à la Maison de la Poésie en 2018, une soirée à laquelle vous avez participé, Pierre Lemarchand. Des paroles, une fois encore, un texte, une fois encore, malaxé à deux, qui est à la fois un texte, disons, félin et asthmatique, hein, d'une certaine façon, c'est ce qu'on a entendu, en tout cas, qu'on entend bien. Qu'est-ce qu'il reste de la chanson en écoutant ce qu'on vient d'entendre? Qu'est-ce qu'on entend, en fait?
Je suis un peu ému de réentendre Jean Fauque raconter, lire les paroles 20 ans après, quand on sait la force des liens qui l'unissaient à Bachung. Ce qu'il en reste, je pense qu'il en reste toute la force. Je ne pourrais pas dire qu'il en reste la moitié de l'intensité. Je pense qu'il en reste toute la force. Les textes étaient au moment de Fantaisie Militaire. tellement considéré qu'il fallait qu'il tienne debout. Je pense qu'il se disait, Jean Fauque, Alain Bachung, qu'il fallait qu'il tienne debout. Et quand on entend Jean Fauque lire toutes ces années après Angora, je pense que ça tient debout. Il en reste la beauté des mots pour eux-mêmes, parce qu'ils envisageaient d'abord la sonorité avant d'envisager le sens des mots, ces deux-là.
Est-ce que ça serait quelque chose justement à lier à ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre Lemarchand, c'est-à-dire cette langue particulière de Bachung, alors de Bachung et de Fauque, de Fauque et de Bachung, enfin en tout cas dans cette circulation-là, mais sur le fait que Bachung, au fond, est grandi au sein de plusieurs langues, considérant le français quasiment comme une langue étrangère, qui est venue un petit peu tardivement et qui aurait fabriqué un rapport au français un petit peu étrange, un petit peu bizarre, et qui, au fond, produirait ce que vous appelez, ce que vous écrivez dans votre essai, l'accent bachungien, c'est-à-dire ce phrasé, cette voix soufflée particulière et ce phrasé particulier.
Oui, je pense. Il découvre donc la musique avec le rock'n'roll américain, il ne comprend pas les mots. Ce qui le charme, c'est les sonorités de la voix déjà. Et ça, je pense que c'est fondateur dans un rapport à la chanson et à la musique. Et puis après, bien sûr, il a lui, cette capacité de regarder la langue française comme un objet un peu étrange, comme vous le dites, étranger au sens littéral, c'est-à-dire ne pouvoir être avec cet objet irrévérencieux ou alors d'en soulever à la fois des expressions très populaires et de les mettre au même niveau que des termes peut-être surannés. Il y a cette capacité-là à jouer avec la langue et puis à la dire comme si c'était une langue étrangère. Oui. Je pense que ça a vraiment construit son rapport à la langue française. Et quand Fauque et Bachung écrivent ensemble, il y a d'abord le son. Il y a d'abord le son. Et dans Angora, il y avait la volonté pour Jean Fauque de jouer avec les sonorités avant toute chose. Il aimait bien ça, les sonorités dans le souffle coupé, la gorge irritée. Voilà, c'était les sonorités qui le charmaient d'abord. Et puis ensuite, c'est la confluence Angora de deux textes différents, hein, comme vous le disiez, un texte à la fois léger sur une chatte que Alain Bachung avait offert à Fauque en 1997, je crois, 87, pardon. Donc il y a ça, et puis il y a aussi, après, Bachung a tiré le texte en sélectionnant, en ajoutant d'autres éléments, d'autres textes de Fauque, en ajoutant des éléments à lui, pardon. Il a tiré le texte vers son fils, Arthur, qui était asthmatique. Et il a réussi comme ça, avec une matière qui n'était pas la sienne, à orienter les mots de Jean Fauque vers des préoccupations qui étaient les siennes, avec ce qu'il avait envie de chanter.
Lui-même, Bachung, quand il parle de son propre phrasé, il explique, hein, dans les nombreux entretiens qu'il a donnés, qu'il a un phrasé qui bleuit lui-même, hein, c'est-à-dire qui rend tout un peu bleu. Je vous citais un entretien à la radio où il dit « Je navigue, la note piquée ne m'intéresse pas vraiment. Barbara chantait en atteignant la note juste. C'est pas vraiment ma culture, ça. » Donc voilà, cette façon, ce phrasé particulier. Vous dites donc, une fois que le texte est fini, l'album est fini. Alors, bon, c'est évidemment une façon de parler. Mais au-delà du texte, c'est aussi la voix. Parce que, alors, comme on va le voir, les musiciens qui vont les uns après les autres rentrer dans la danse, hein, dans la ronde, vont se caler aussi sur une voix témoin, sur la voix de Bachung, d'une certaine façon, pour travailler. Pas tout de suite, mais ils vont finir par se caler sur cette voix-là. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ce phrasé, justement?
C'est une voix qui évolue déjà. C'est ça qui est très intéressant dans le parcours de Bachung. C'est une voix qui a évolué tout au long de sa trajectoire musicale. C'est une voix qu'il cherche, en fait. C'est pas une voix qu'il a trouvée et qui est là et qui va rester jusqu'au bout. C'est une voix, je pense, qu'il questionne. Et ça, c'est la découverte de Ferré. Et si on se rend compte aussi, si on écoute la discographie de Bachung du début jusqu'à sa fin, on a l'impression, et je pense que c'est ce qui se passe, que la voix émerge lentement du mix. La voix prend tout doucement le dessus sur la musique. Elle est de plus en plus mixée au-dessus de la musique.
De moins en moins anglo-saxonne.
De moins en moins anglo-saxonne, exactement. Elle est plus dans le mix, comme les Anglais, les Anglo-Saxons font. Mais elle est vraiment, comme dans la chanson française, par-dessus. Il y a un accent bachungien, comme je disais, parce que je pense aussi qu'en français, il y a un accent particulier que Bachung n'a pas. Lui, il se permet de mettre la tonique, par exemple, où ça le chante. Et ça fait comme ça naviguer les mots et leur donner une couleur un petit peu étonnante, un peu différente. Et la voix de Bachung, et ça aussi vous le disiez de manière subreptice, la voix de Bachung, La genèse de Fantaisie militaire est intéressante quand même. Parce qu'il s'entoure de plusieurs musiciens, et ce qu'il leur donne, c'est uniquement sa voix. Une fois que les textes sont terminés, il trouve une mélodie, il s'accompagne de sa guitare, une petite rythmique. Il chante, il s'enregistre, il enlève la guitare. Il ne reste plus que sa voix et une rythmique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'harmonie. Et c'est avec cette voix témoin qu'il enregistre dans son appartement à Belleville, de manière extrêmement rudimentaire, que pendant plus d'une année, la valse des musiciens s'organisera et les artisans de Fantaisie militaire vont comme ça imaginer des arrangements. C'est un peu le phare dans la nuit, la voix de Bachung finalement. C'est un peu ce à quoi on peut se rattraper, c'est l'unique lumière. Je pense que c'est intéressant parce que j'y avais jamais songé auparavant, avant que vous ne souleviez ce point-là. Mais c'est ce qui existe avant toute chose, la voix. C'est ce qui prédéterminera le reste, peut-être plus que les mots.
Qu'est-ce qu'elle évoque, cette voix, pour vous, Philippe Forest ?
J'ignorais l'effet que la découverte de Ferré a pu avoir sur Bachung. Et effectivement, je pense que ça explique pas mal de choses, et notamment aussi sur tout ce qui touche à la voix. La voix de Ferré, elle aussi, elle a beaucoup évolué, et elle s'est mise à occuper le devant de la scène exactement dans les termes, je crois, que vient d'utiliser Pierre Lemarchand.
Elle s'est mise à déchanter aussi, celle de Léo Ferré, d'une certaine façon.
Oui. C'est-à-dire, chez Ferré, il y a, et ça n'est pas non plus étranger à ce que Bachung a fait, une manière de glisser perpétuellement du chanter au déclamer ou au réciter qui est très, très fort et qui fait bien apparaître ces liens qui existent entre poésie et chanson.
Alors, ce qui est assez fou, Pierre Lemarchand, quand on lit, c'est très passionnant, toute cette première partie qui est vraiment la fabrique, la genèse. Donc là, il y a une partie, la fabrique, et puis une seconde partie qui est l'écoute, morceau par morceau. Et dans la partie, la fabrique, vous faites entrer les personnages un peu comme dans une partition, en fait, comme les instruments qui entrent progressivement les uns après les autres dans une partition. Il y a un monde fou qui travaille sur cet album. Et ce qui est assez frappant, c'est la place qui occupe Bachung. Donc c'est assez étrange, on a le sentiment que Bachung est là, sans l'être tout à fait, c'est-à-dire il est toujours un peu hors champ, dans la pièce d'à côté, ou dans la cuisine, ou endormi pendant un enregistrement, pendant l'enregistrement des cordes par exemple. Il est là, mais il est hors champ. Quel est véritablement en fait son rôle, son parcours, pendant la fabrique de l'album à proprement parler ?
Ah, si on devait le rapprocher d'un métier, ce serait peut-être celui de réalisateur de cinéma, de metteur en scène, ou de chef d'orchestre pour rester dans le champ musical. C'est-à-dire que lui, il a une vision d'ensemble, Alain Bachung. Il a une vision d'ensemble, il sait où il veut aller. Et pour aller là où il veut aller, il va mobiliser des camarades, des artisans, comme ça, des musiciens, et va les laisser expérimenter. Et lui, il va laisser venir, il le dira dans l'imprudence après. Laisse le vent du soir, comme ça, t'emporter. Il va créer les conditions pour que la surprise émerge. Il va se laisser embarquer. Et il est comme ça, sans cesse, une figure entre la présence et l'absence. Je le compare parfois au dormeur du Val, ou au héros de Réparer les vivants de Mélisse de Kerangal, Simon Limbre, parce qu'il est ici et pas vraiment ici, en fait. Il est toujours en demi-sommeil, mais il est là, et toujours dans des endroits comme ça de transition. Géographiquement, il est souvent dans la cuisine. C'est pas là où ça se passe, un enregistrement, normalement. C'est pas dans la cuisine.
Oui, il y a beaucoup de questions de cuisine.
Il est toujours dans la cuisine, mais c'est aussi métaphoriquement assez intéressant. Il est aussi cuisinier, finalement. Il met plein d'ingrédients dans une grosse casserole, et puis il attend que ça mijote, quoi. Et lui, il est là dans la cuisine. Autour de la cuisine, il y a les différents studios dans lesquels travaillent les différents musiciens. Et lui, il est là et il attend, en effet. Et tous les témoignages convergent pour définir cette attitude extrêmement insaisissable d'un homme qui est là, infiniment là. Sa présence est indéniable, mais absent. Mais dans la pièce d'à côté, ou silencieux. Comme vous le disiez, il y a quand même une image moi, qui m'a... Quand j'ai mené tous ces entretiens, donc je discute avec Edith Fambuena, puis après avec Joseph Racaille, et donc ça, ils me racontent tous les deux la même chose, c'est que pendant l'enregistrement des cordes de la nuit, Bachung dort. Moi, ça m'a laissé quand même très songeur. Il est insomniaque, donc l'enregistrement doit se faire vers 14 heures. Donc pour les insomniaques, c'est leur la pire qu'il soit. Et Bachung dort parce que il a fait son œuvre, il a tracé le chemin, et lui, il arrive à la fin pour chanter les voix définitives une fois que le mix est complètement fait, quoi, que le décor est complètement planté, et donc que ce qui s'est fait en pré-production, puis après lors de l'enregistrement dans le sud de la France avec d'autres musiciens, puis les cornes, etc. C'est là ensuite qu'il pose sa voix sur les playbacks complètement effectués. Mais pendant l'enregistrement des cordes, il dort.
Alors, à propos de dormir, Pierre Lemarchand, vous évoquez le dormeur du Val, vous faites le lien aussi avec la fameuse couverture de Fantaisie militaire, où on voit Bachung allongé un peu façon Ophélie, hein, avec le visage, dont on ne voit que le visage, avec le torse, avec les mains posées dessus, qui émerge d'une eau un peu glauque, un peu sombre, hein, puis recouverte de mousse verte, donc un premier lien, et puis un lien évidemment avec le titre de l'album, et voici ce que Bachung en dit.
Fantaisie militaire, tout l'album, j'ai pensé pratiquement à une seule image que j'avais vue un jour à la télé. Je voyais un militaire au Rwanda, je crois, et qui déchirait son béret avec son couteau, et il pleurait, et apparemment il ne savait plus quoi décider, il était dans le désarroi le plus complet. Et de voir un militaire faire ça, parce qu'un militaire, c'est quand même quelqu'un qui est entraîné pour garder son sang-froid, pour être costaud, pour être... il a travaillé l'endurance, tout ça, même le psychique. Et voir que ce genre de personne peut craquer, ça veut dire que sa tête est farcie de contradictions, de paradoxes. C'est insupportable pour le commun des mortels. Donc il y a quand même des choses qui arrivent, qui nous bousculent de telle manière que ça nous fait imploser ou exploser, je sais pas. Alors moi j'ai la chance de pouvoir le raconter, mais d'autres ne savent pas comment le sortir ou le raconter. Alors ça peut se traduire par de la violence. Pour moi, faire un disque, ça peut être aussi un acte de violence, mais c'est une violence plus canalisée.
La voix de Bachung, c'était un extrait de la série De l'aube à l'aube, diffusée sur France Inter, c'était en 2014. Cet album-là, Pierre Lemarchand, on pourrait le voir comme un acte de violence ?
On pourrait le voir comme un pansement, plutôt. C'est toujours Bachung qui dit ça, quand on a fait un album, on a descendu ses poubelles. Il disait un truc comme ça. Bachung, au moment de la Fantaisie militaire, est le dormeur du Val, mais il est aussi ce soldat sans joie, cet homme désarmé. Et les conditions de Fantaisie militaire expliquent la tonalité du disque. C'est lui, il va très mal, hein, il est en pleine séparation. Et finalement, quand je rencontre au fur et à mesure tous les artisans de ce disque, ils vont tous mal. Ils me le disent soit vite, soit un peu plus loin dans nos entretiens, mais ils vont tous mal, ils ont tous des vies cabossées. Des éclopées de guerres intimes, je crois, comme je l'écris dans ce livre. Et c'est un disque de gens malheureux, mais qui est fait dans la joie.
En Bachung vous fait écrire, Pierre Lemarchand, comme Dominica est en train de vous faire écrire pour son, cette fois c'est son premier album, hein, c'est La Fossette, comme Karine Dalton a commencé par vous faire écrire. Alors, j'avais annoncé chanson française, j'ai menti. On écoute. Pour extrait de In My Own Time, le second et dernier album studio de Karine Dalton en 1971. Et cette voix si particulière, hein, qu'on a beaucoup rapprochée de celle de Billie Holiday et dont Bob Dylan a beaucoup, beaucoup parlé. Hein, il a vraiment tout à fait assumé son influence. C'est le premier texte en fait hein, que vous ayez écrit, enfin le premier livre que vous ayez publié sur elle, sur cette chanteuse Pierre Lemarchand. Philippe Forest, je me demandais si la chanson ou la musique avait pu être un moteur d'écriture pour vous, si vous aviez déjà écrit dans la musique.
Pas vraiment, sinon qu'elle a forgé ma sensibilité à l'époque où j'écoutais beaucoup de musique et de chansons, notamment à l'adolescence. Donc je pense que les chanteurs que j'ai écoutés quand j'avais 12, 13, 16 ans, 18 ans, etc., ont compté autant pour moi que les écrivains, les poètes, les romanciers que j'ai découverts à cette époque-là. Mais je n'ai jamais écrit de livre directement sous l'influence d'un chanteur ou d'un musicien. En tout cas, si c'est le cas, je n'en ai pas conscience.
Ce qui nous amène, comme ouais. ça tombe bien, en ouvrant la focale, hein, à ce hors-série d'Art Presse consacré à la chanson française. Alors, moins anthologie, enfin, ce n'est même pas du tout une anthologie, hein, que point de vue ou affaire de goût, ou histoire intime, ou histoire tout court d'ailleurs, hein, avec des retours sur pochettes, sur clips, et des interviews, et on entend ça, notamment.
Tous ces cris de la rue, ces mecs, ces magasins où je te vois dans les rayons comme une offense, aux bijoux de trois sous, aux lingeries de rien, ces ombres dans les yeux des femmes quand tu passes, tous ces bruits, tous ces chants et ces parfums passants quand tu t'y mets dedans, quand je t'y exile pour t'aimer de plus loin comme ça en passant, tous ces trucs un peu dingues, tout cela c'est ton style.
Mais on y entend aussi ça.
Deux châteaux, le premier en Écosse. Comme Pulibi a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des ors et des corps.
Et même ça.
Il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux.
Ça c'est fait. Et on pourrait ajouter à ce bout de BO Bertrand Burgala, Camille, Petula Clark, Juliette Gréco, Mylène Farmer, Barbara, Marc Lavoine, Daniel Darc, Paul Naref, Juliette Armanet, Gainsbourg forcément, Pascal Boisiz et plein d'autres, évidemment, alors, dont ce petit plaisir coupable que nous venons d'écouter en la personne de Dave. Alors, on entendait évidemment avant Léo Ferré et Jacqueline Boyer. Plaisir coupable, sans doute, mais pas que. Alors, il y a quelque chose de la chanson, malgré tout, qui se dit là, hein, dans ce titre de Dave et que vous partagez avec Stéphane Hirschi, qui est professeur de littérature à Valenciennes, mais néanmoins expert en ce qu'il appelle la cantologie, avec lequel vous menez un très long entretien, et il y aurait pour vous intrinsèquement, essentiellement lié à la chanson, l'idée qu'elle est en train de finir au fond dès qu'elle commence.
Oui, elle a un lien avec la mémoire. Toutes les chansons sont des souvenirs, et d'ailleurs on le disait déjà tout à l'heure, mais on ne réfléchit pas forcément à ce que cela implique. Moi, dans le numéro de la NRF donc, dont on parlait tout à l'heure, on avait demandé à des écrivains de parler d'une chanson, et la chanson que j'avais choisie, c'était une chanson de Léo Ferré qui s'appelle Les Souvenirs, qui est assez peu connue. Moi, j'ai une prédilection pour le Ferré des années 70, c'est pour ça que j'avais évoqué aussi ton style dont on a entendu un extrait. Et donc le fait que les chansons soient des souvenirs, c'est une évidence. Mais j'avais été très frappé par la lecture que j'avais faite à la même époque, donc des textes théoriques de Stéphane Hirschi, texte dans lequel il explique très bien justement ce lien de la chanson au temps. Parce qu'une chanson, dit-il, et c'est ce que je reprends dans le texte que j'ai écrit en préambule au numéro, une chanson, c'est du temps qui passe et du temps qui revient. Elle commence et elle est déjà sur le point de finir. Et c'est ce qui fait, explique-t-il, le caractère à la fois très, très mélancolique et très joyeux de la chanson. Elle nous donne à sentir le temps qui passe inéluctablement, du fait de sa brièveté, mais du fait de la capacité qu'on a à reprendre la chanson, à la réentendre, elle nous dit que ce temps qui passe est un temps qui est aussi susceptible de perpétuellement revenir et de revenir nous réenchanter. Ce que Claude François dit aussi, hein, quand il dit ça s'en va et ça revient. Voilà. Bon, mais Stéphane Hirschi explique ça de manière plus profonde et plus développée, mais l'idée, elle est là. D'où la référence à Dev, parce que finalement, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que du côté de chez Swann, chanté par Dev, ça soit la même chose que La Charge du temps perdu écrite par Proust. Je pense que Dev lui-même, d'ailleurs, aurait bien conscience du décalage
sans
qui existe
doute.
Entre les deux.
Sans
parce
nul doute.
C'est quelqu'un qui a l'air d'être très intelligent et très doté d'un vrai sens de l'humour. Mais en même temps, le cœur, il est bien là. C'est de nous faire sentir le passage du temps, la manière dont le temps se perd et est susceptible de se retrouver.
Vous dites même, Philippe Forest, vous dites même que toutes les chansons ont un air d'élégie.
Oui, c'est ce qui fait leur caractère mélancolique, fondamentalement. J'en cite quelques-unes, mais même les chansons les plus tristes, comme et ce sont souvent les plus grandes chansons, comme Avec le temps de Ferré, Les feuilles mortes de Montand, enfin de Prévert et de Cosma, ou Le temps des cerises avant ça. Toutes ces chansons qui disent le temps qui passe, qui disent mélancoliquement le temps qui passe, nous procurent une sorte de joie fondamentale à partir du moment où on a la capacité de les reprendre et de les chanter à nouveau.
Alors ça, c'est celles qui disent le temps qui passe, mais d'autre part, la chanson, c'est aussi ce qui porte, la chanson porte en elle, en fait, presque la hantise de sa fin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, à écouter une chanson, de savoir qu'elle va s'arrêter ou de s'inquiéter qu'elle ne s'arrête.
Une chanson, c'est ce que Stéphane Hirschi explique très bien, mais qu'on pressent tous, qu'on comprend tout de suite dès qu'on nous l'explique, c'est que toute chanson est une structure de compte à rebours, et de ce point de vue-là. Et c'est ce qui fait la spécificité, dit-il, de la chanson par rapport à la poésie. Il y a cette forme chanson qui produit des effets tout à fait particuliers et qui sont différents des effets qui est susceptible de produire le texte poétique, même quand la chanson est l'adaptation d'un poème. L'adaptation signifie le transvasement, en quelque sorte, du poème à l'intérieur de cette forme chanson, avec toutes sortes d'effets qu'on perçoit bien. Lorsqu'on lit, par exemple, lorsqu'on compare, par exemple, les poèmes d'Aragon, pour revenir à lui, et les chansons que Ferrand a tirées. Voilà. Bon, c'est le même texte, mais pas tout à fait quand même. Et le seul fait qu'il soit chanté, qu'il soit inséré à l'intérieur de cette forme-là, modifie complètement le rapport qu'on peut avoir avec le poème dès lors qu'il devient chanson.
Alors, à l'intérieur même de ces chansons, hein, toujours dans ce long entretien que vous menez avec Hirschi, il dégage en fait une sorte de typologie un peu étrange, mais qui finalement fonctionne assez bien entre deux types de chansons qui seraient, par exemple, d'un côté Traîner et Gainsbourg, et puis de l'autre côté Piaf et Brel, en fonction de leur fin, puisqu'on parlait justement de la fin. C'est-à-dire, il y aurait les chansons lestes, côté Traîner et Gainsbourg, pas toujours, mais Gainsbourg quand même, et puis les chansons lestées, qui seraient côté Brel et côté Piaf, en fonction de leur fin, justement, qui seraient des fins qui dramatisent d'un côté, et puis de l'autre côté, des fins en soi qui soient plus légères, plus droites, plus suspendues, où on pourrait mettre aussi, par exemple, Higelin, ou on pourrait mettre Souchon. Est-ce que c'est une typologie qui vous convient, et est-ce que vous, Philippe Forest, vous seriez plutôt du genre lest ou lesté?
D'après ce que j'écris, on me classe plutôt du côté des écrivains lestés en général plutôt que des écrivains lestes. Mais ce qui m'intéresse dans cette typologie, qui est réductrice comme toute typologie, c'est
mais elle est tentante. Hein.
C'est la manière dont elle ne fournit un cadre que pour montrer à quel point toutes les grandes chansons échappent au cadre qui est ainsi mis en place. Parce que je crois que c'est l'exemple que donne Hirschi. Et en tout cas, c'est celui que Lama avait donné lorsque je l'avais rencontré donc pour le numéro de la NRF. La fameuse chanson de Trenet que je chante, elle s'achève quand même sur un suicide. Et donc en ce sens, il y a une faculté des grands chanteurs à jouer sur les deux tableaux en même temps et à circuler en permanence d'un côté et de l'autre de cette typologie.
D'où vient Philippe Forest, ou d'où viendrait peut-être que la chanson, sans doute plus que tout autre... alors je ne vais pas transformer la chanson en texte, évidemment la chanson... Ce qui se joue dans la chanson, c'est quand même aussi ce rapport à l'air, l'air et le texte qui s'y fixe ou inversement. Mais d'où vient que nous ayons un rapport si intime à la chanson ?
Parce que les chansons sont des souvenirs qui nous parlent de nous et en même temps parlent à chacun et de tout le monde. Donc il y a un côté extraordinairement autobiographique, je crois, dans la chanson. C'est ce qui m'intéresse aussi, hein, parce que je crois qu'il y a des relations très étroites entre la chanson et ce qu'on appelle donc depuis quelques années l'autofiction. Il y a cette dimension particulièrement personnelle qui fait le caractère tout à fait poignant de ces chansons qu'on aime pour cette raison-là. Le plus souvent pour les avoir déjà entendus autrefois. Tout à l'heure, on en a eu un exemple et on en trouve beaucoup d'autres dans ce numéro d'Art Presse. Dès qu'on parle de la chanson, on se met à parler de soi et des circonstances dans lesquelles on a rencontré telle ou telle chanson et on s'est mis à l'aimer. C'est pour ça que c'est aussi très, très générationnel. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai. On aime les chansons que l'on a écoutées autrefois et que l'on a plaisir à retrouver. Et je dois confesser que moi, je porte un intérêt assez limité, à quelques exceptions près, aux chansons les plus récentes. Les chansons que j'aime et qui continuent à compter pour moi, c'est celles que je suis susceptible de relier à un souvenir qui me renvoie à l'époque où j'étais adolescent ou jeune homme. Donc c'est ce que je dis. Pour moi, la chanson française, elle s'arrête presque avec les premiers albums de Bernard Lavilliers et de Charlie Couture, c'est-à-dire les albums que j'ai découverts quand j'étais adolescent. Oui. Voilà.
Qu'on retrouve d'ailleurs.
J'ai honte de le dire, mais jamais.
Non, mais je pense que...
c'est la vérité.
Non, mais vous n'êtes pas le seul, parce que je pense par exemple au texte de Thomas Clair sur les phases B, où il explique bien qu'en fait, ces disques, c'est 82, 88, son adolescence, puis à partir de là. Alors, bon, on parle sous le contrôle d'un critique, ce qui fait que j'imagine vous devez vous faire violence, Pierre Lemarchand, justement, pour ne pas vous abandonner à ce seul rapport-là à la chanson.
Oui, moi, je continue d'être très attentif à ce. À ce qui se fait, et j'ai des émotions toujours renouvelées, parce que c'est vrai que j'ai un rapport, forcément on a tous un rapport un peu nostalgique, hein, donc cette espèce de retour douloureux, parce que justement on ne peut quelque chose qui est révolu, mais une chanson, c'est aussi une ritournelle, alors, au sens un peu deleuzien, quoi, où c'est quelque chose, c'est un univers clos qui dans lequel on peut s'inscrire et qui nous rassure, quoi, qui établit peut-être des frontières entre nous et le monde et ce qu'il peut avoir de dangereux ou d'imprévisible. Moi, les chansons, je les vois aussi comme ça, comme des ritournelles. C'est quelque chose qui à la fois me ramène en arrière, mais aussi qui me rassure et me protège. Et donc ça, des chansons que je découvre aujourd'hui peuvent avoir ce rôle de ritournelle. Et je continue donc pour ça de toujours en découvrir. Et puis après, j'étais très attaché, moi, forcément, au support physique, et notamment au vinyle, parce que ça incarne exactement ce que vous disiez, elles portent déjà leur fin. Voilà, on voit inéluctablement l'aiguille du diamant progresser sur l'acétate. Et voilà. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, on ne voit plus ce temps qui passe. Ça, c'est quand même, je trouve, quand on me demande, moi, pourquoi je suis un peu nostalgique du support physique, c'est uniquement pour ça, en fait. C'est que j'ai toujours aimé regarder l'aiguille avancer comme ça sur le vinyle et accompagner le temps de la chanson qui passe.
Puis il n'y a plus non plus, pardon d'y revenir, hein, ce soldat mort au champ d'honneur, comme dit Thomas Clair, qui est la phase B.
Exactement. Cet envers du monde, voilà, quand on retourne un disque, c'est comme si on retournait un monde. Voilà, il y a comme la lune à sa face cachée. Ce rituel du retournement... Quelque chose, oui, moi, dont je suis là, pour le coup, assez nostalgique.
Oui, puis la disparition même de l'album, parce que c'est comme si on lisait les poèmes de Baudelaire ou de Rimbaud. Enfin, Rimbaud, c'est un un exemple un peu moins bon, mais disons les poèmes de Baudelaire, indépendamment de la structure et de l'architecture des Fleurs du Mal. Je veux dire, un vrai artiste, c'est quelqu'un qui pense ses œuvres à l'intérieur de l'ensemble, ou ses œuvres sincères. Donc, à mon avis, les chansons sont faites pour être écoutées au sein de l'album où elles ont d'abord été pensées. Ce qui se perd, bien sûr, maintenant avec l'écoute en ligne.
Avec la playlist, hein. Pierre Lemarchand.
Moi, les playlists, j'aime beaucoup les playlists parce que c'est aussi peut-être une manière de faire résonner les chansons les unes avec les autres, de leur offrir une dimension nouvelle. Ce qui est important, c'est même si on écoute des playlists, quand un artiste a pensé un album, c'est de pouvoir quand même y revenir. On peut pas, enfin, l'histoire de Melody Nelson, Fantaisie militaire, L'imprudence de Bachung, certains disques de Ferré, enfin. Il y a beaucoup d'albums qui sont pensés comme tels.
La Fossette,
évidemment, de Dominique A, même si c'est une compilation de chansons, la manière dont ces chansons sont organisées, et aussi le contexte qui fait qu'elles émergent un jour, tout cela est éminemment pertinent.
Philippe Forest, vous écrivez dans votre texte d'Art Presse, la petite variété ne vaut pas la grande littérature, écrivez-vous. Je ne suis pas en train de le suggérer, il n'y a d'ailleurs pas de sens à les comparer. Alors pas plus, hein, j'ajouterais que la petite littérature et la grande chanson, je suppose, hein, mais essentiellement avec les moyens qui lui sont propres et qui lui permettent à sa manière d'exceller, elle dit la même chose, c'est-à-dire.
Mais c'était un propos que j'introduisais pour nuancer le rapprochement un peu scandaleux, sans doute aux yeux de certains, que je faisais entre la chanson de Dave qu'on a écoutée tout à l'heure et La chère du temps perdu de Marcel Proust. Mais j'aime bien rappeler ça dans un autre numéro de la NRF qu'on avait consacré à Proust. Je disais, et je le faisais à dessein dans une visée un peu provocatrice, que la première fois que j'avais entendu parler de Swann, c'était en écoutant cette chanson. Et c'est seulement bien après que j'ai réalisé que Swann était le personnage donc d'un roman que j'ai fini par lire. Donc il y a une circulation entre la grande culture et celle qu'on juge un peu moins haute. Mais finalement, je veux dire, l'émotion esthétique, c'est quelque chose qui demande à être aussi compris dans le rapprochement qu'on peut opérer entre des œuvres qui appartiennent à des genres ou des disciplines différentes, ou qui, au sein de la même discipline ou au sein du même genre, sont des œuvres, bien évidemment, d'ambition totalement variées. Donc, comparer une petite chanson avec un grand roman, ou comme vous le disiez, une grande chanson avec un petit roman, c'est comprendre ce à quoi l'art vise et ce qu'il nous permet. Donc, un certain rapport maîtrisé au chaos du monde et à son absence de signification. Ce qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut à la fois rester fidèle à cette expérience de l'impossible que l'art nous offre et nous promet, mais proposer cette expérience sous une forme qui ne nous détruise pas, mais qui nous permette d'établir un commerce avec la vie, avec le monde. Bon, ça, la chanson le fait aussi bien que la peinture, autant que la peinture, autant que la littérature, etc. Mais bien sûr, toutes les œuvres ne sont pas comparables et toutes les œuvres ne se valent pas.
C'est ce qu'explique Hirschi aussi, hein, avant d'en arriver à pouvoir installer son idée de cantologie et de faire rentrer véritablement la chanson à l'université. Il n'y en a pas tant que ça. Alors, c'est le cas à Valenciennes, et puis je crois aussi à Aix, hein, où on y travaille beaucoup, où elle a fini par rentrer dans le champ de la littérature. Mais normalement, en général, c'est quand même la poésie qui gagne.
Oui, et puis de toute manière, ça reste quand même. Quand on a choisi il y a quelques années dans la NRF donc de faire un numéro sur la variété, cela n'allait pas de soi d'interviewer Serge Lama dans la revue de Gide et de Proust.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes par Manu Farine.
Alors avant de partir, puisque c'est bientôt la fin de cette émission, un tout petit point valise, hein, peut-être, Philippe Forest et Pierre Lemarchand, puisque c'est la dernière de la saison. Quels sons est-ce qu'il faudrait, ou est-ce qu'on pourrait, emmener dans sa valise ou dans ses oreilles, hein. Pierre Lemarchand.
Moi, je suis peut-être un peu hors sujet, parce que, comme je vous le disais au tout début de l'émission, moi, c'est le rock qui m'a plutôt amené à la chanson française, et donc j'avais pensé à deux choses, deux disques de rock, hein, qui viennent sortir là. D'une chanteuse suisse qui s'appelle Émilie Zoé. voilà, qui prolonge un peu l'énergie de PJ Harvey, par exemple. Voilà, Emily Zoé. Very Start s'appelle ce disque. Et puis un souvenir, donc j'écris sur Dominica Lafossette, mais aussi sur Nico, chanteuse du Velvet Underground, qui après a eu un parcours absolument singulier, passionnant. Et j'écris sur le disque The End. Donc forcément, je me dirais, écoutons The End, voilà, de Nico, un album de 1974.
Philippe Forest.
Bah, Dominica m'irait très bien, c'est un chanteur nantais, donc avec lequel j'ai eu l'occasion parfois de dialoguer. Maintenant, je ne suis pas vraiment une personne bien placée pour vous donner des conseils concernant l'actualité discographique. Donc
ça n'a pas besoin d'être l'actualité, Nico, ma foi.
Ouais.
Le disque, mon disque, je sais pas, je pense que peut-être le chef-d'œuvre, c'est pour moi, en tout cas, c'est Léo Ferré, Bobino 69, voilà. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment forcément quelque chose à emmener en vacances.
Pierre Lemarchand, Philippe Forest, c'est la fin de cette émission, ou presque, hein, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous, et belle grille d'été.
On est un peu laissé à nous-mêmes, alors.
Ouais.
Bah, parlez-moi de votre disque sur Dominica, je vais faire l'intervieweur. Votre livre sur Dominica.
Bah, c'est le même principe que pour Fantaisie militaire. On revient sur la jeunesse d'un disque et puis on se penche sur les chansons une par une comme autant de petites œuvres dans lesquelles on va essayer de plonger au plus profond. Mais moi, ça m'a fait très plaisir de vous entendre parler de Léo Ferré parce que s'il y a bien un artiste qui m'impressionne, c'est celui-ci. Et du coup, je saurais par où commencer. Je commencerai par Bobino, alors.
Eh ben moi, j'ai une prédilection pour les albums des années 70, comme je disais. Mais Bobino 69, donc c'est juste après mai 68, donc il y a une ambiance tout à fait particulière. Et puis, c'est surtout le fait que ça soit Ferré seul avec son pianiste, quoi. Et donc, ça donne une puissance aux chansons qui est assez extraordinaire, parce que, pour dire un peu de mal de Ferré, quand même, les chansons, parfois, sont prises chez lui... sous le poids d'une orchestration, un peu d'inspiration classique qui n'est pas toujours du meilleur aloi, tandis que là, le piano, la voix, c'est vraiment extraordinaire.
Parce que on a tous des souvenirs comme ça musicaux de la jeune enfance qui nous marquent. Alors moi, il y a Woodstock, et puis je trimballe dans un coin de ma tête, je n'ai jamais retrouvé, pourtant j'ai cherché comme un fou. Avec le temps, Léo Ferré tout seul au piano. Voilà, où il parle, voilà, il s'arrête au milieu de la chanson, il parle et après il reprend.
Je me rappelle l'avoir vu faire ça, effectivement. Bon, je sais pas en quelle année il est mort, 92, quelque chose comme ça, peut-être. Je me rappelle donc avoir assisté à certains de ses derniers concerts dans les années 80. Et effectivement, il jouait avec le temps seul en scène et souvent il accompagnait la chanson de commentaires qu'il intégrait.
Voilà, moi c'est un souvenir que je trimballe depuis fort longtemps.
Mais c'est étonnant de voir comment le nom de Léo Ferré est celui qui revient le plus souvent chez les écrivains, en tout cas qu'on interroge sur la chanson, et chez les chanteurs souvent également. Non, bah, je crois qu'on en a assez fait.
Je sais pas, oui, je pense. On dit au revoir aux auditeurs alors.
Bah oui, je vous laisse faire, c'est vous le pro.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, mais à 16h. Et puisqu'on parlait chansons, j'en profite pour annoncer la série musicale Faire tomber les murs. Ce sera du lundi au vendredi, de 15h à 16h, pendant toute la grille d'été. À la technique aujourd'hui, Stéphane Desmond. À la préparation, Thierry Beauchamp. Et à la réalisation, François Connac. Vous trouverez toutes les actualités de Pierre Lemarchand et Philippe Forest sur le site de l'émission. à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Et tout de suite, c'est l'heure pour la dernière de la saison de Nicolas Martin et de sa méthode scientifique.